Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Hey, aujourd'hui, là, j'avais envie qu'on parle de choses qu'on fait en tant que parents, qu'on fait tous et qui sont absolument contre-productifs quand vient le moment de gérer une crise, d'accompagner les grosses émotions de nos enfants. Puis, c'est des choses, là, vous allez voir, qui sont niaiseuses, des choses qu'on fait en sachant ou en se doutant que c'est vraiment pas l'idéal, mais on le fait quand même. C'est du genre dire à notre enfant « Chut, calme-toi! » Mais oui, on le fait tous parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ça arrête rapidement, ça nous rend inconfortable. On veut pas voir nos enfants en colère et ça menace notre petite quiétude. Ça menace notre calme, ça nous désorganise, ça nous déstabilise. C'est difficile de rester calme, c'est difficile de rester composed dans ces moments-là. Puis c'est dans ces moments-là que notre bouche va se mettre à dire toutes sortes de niaiseries pour essayer de contenir la situation, pour essayer de contrôler l'étendue de la crise, pour la rendre plus justifiable, alors que c'est souvent pour des raisons qui nous paraissent, dans le moment, déraisonnables. C'est juste une petite nuisance, là. En ce moment-là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écouter mon petit Netflix le soir, là, parce que j'ai eu une grosse journée. Mes enfants sont supposés être couchés, peuvent-tu juste dormir? Puis là, ben, on va être un petit peu déstabilisés. On va être très irrité, très agacé parce que là, ça répond pas à notre besoin. C'est une nuisance, fait qu'on va intervenir en disant « Chut, calme-toi, respire! Chut, 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 tu vas réveiller ta sœur! » Alors que notre enfant, il a pas besoin de ça, il a pas envie de ça. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces 5 choses que l'on fait parfois en intervention, jamais en étant mal intentionné, bien sûr, mais 5 erreurs niaiseuses qu'on fait tous à un moment ou à un autre. Moi, la première, hein, en passant, mon but étant de dédramatiser, de peut-être te sentir moins seul, plus compris, puis mon objectif aussi, c'est évidemment de t'inspirer à avoir des interventions qui sont différentes, à avoir peut-être des pistes d'intervention pour réagir différemment, de t'aider à voir les choses sous une autre perspective. Et ben pourquoi pas, tant qu'à y être, d'outiller tes enfants peut-être et de s'outiller nous aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on ne grandit pas tous les jours, particulièrement maintenant qu'on a des enfants. Alors, l'erreur numéro uno, c'est de dire évidemment à un enfant de se calmer, hein. Calme-toi, respire, tchut. Surtout, respire et calme-toi. Ça t'est probablement déjà arrivé de gérer une grosse tempête d'émotions de ton enfant, puis d'un peu embarquer dans la crise, hein, malgré toi. Ça nous arrive tous. Puis on s'entend qu'on fait rarement exprès, on veut pas embarquer dans la crise, mais des fois, on se sent agacé, on se sent irrité, on veut que ça arrête, on sent qu'on est en train de perdre le contrôle. Et là, on est tout à coup un petit peu trop impliqué émotionnellement, ou un peu trop confronté, peut-être, ou peut-être que ton cerveau se sent menacé du genre « Oh, là, j'avais vraiment pas la passion pour gérer une autre crise. Pourquoi? Ça arrive encore, je suis à bout, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, j'ai eu une grosse journée, c'est la deuxième crise, aujourd'hui, ça allait pas bien matin, j'ai pas le goût. » Et là, de perdre un peu le contrôle et de dire à ton enfant, alors que dans le fond, c'est probablement à toi que tu es en train de te dire « Calme-toi! » Ou dire à ton enfant « Quand tu seras calme, je vais pouvoir t'aider, mais là, t'es calme, j'entends rien, arrête de pleurer. » En sachant très bien que cette phrase-là n'a pas tellement de sens, hein? C'est là que ton enfant a besoin de toi. Une fois calmé, ton enfant, il risque plus ben d'avoir vraiment besoin de toi, tu sais. En tout cas, beaucoup moins. Pis sérieux, qui aime ça se faire dire « calme-toi » ou « respire » dans un moment de vulnérabilité ou de rage intense? Personne. Il y a personne ici qui va me faire croire que « Ah oui, moi, j'aime ça, ça m'apaise entendre quelqu'un dire « Hey, calme-toi! » Ouh! L'affaire, c'est que moi, souvent, je pense que je suis calme, tu sais, mais je me vois clairement pas aller. Et quand je parle, je gesticule beaucoup, fait que je peux comprendre pourquoi mon chum, mon mari, pense souvent que je suis pas calme, mais parce que je le suis pas, premièrement, en toute honnêteté. Ah, mais moi, je crois, j'essaye fort, tellement fort de me calmer que je me crois en plein contrôle de mes émotions, alors que, hein, bien humblement, je ne le suis pas, tu sais. Fait que quand il me dit de me calmer, issibole, c'est l'insulte du siècle, mesdames et messieurs. Mais c'est comme si je savais pas déjà, tu sais, je le sais qu'il faut que je me calme si je suis pas calme. Je le sais. Ton enfant, il le sait probablement aussi qu'il faut qu'il soit calme, même s'il l'est pas. Mais justement, il sait pas comment. Il sait pas comment se calmer. Il sait qu'il faut qu'il le fasse, mais là, il a perdu le contrôle. Il est plus capable de revenir. Il est plus capable de raisonner. Il est plus capable de trouver une solution. Il est déconnecté. Fait que de se faire dire de se calmer, c'est comme, hey! c'est vraiment overwhelming, c'est ajouter un petit peu d'huile sur le feu, là, parce que l'enfant, il le sait. Fait qu'en plus d'avoir des grosses émotions, ben, qu'il n'arrive pas à contrôler, ben là, il se fait demander de se contrôler encore plus. C'est comme si je te disais, « Hey, regarde, lis le menu ici en cantonais, mais je sais pas lire cantonais. » Oui, oui, mais c'est parce que t'essayes pas assez fort, là. Essaye plus fort, je suis sûre que tu peux. Je sais pas lire cantonais. Donc, à la place, ce qu'on veut faire, c'est d'enseigner le modèle à nos enfants. Des fois, premièrement, oui, super important de pas embarquer, nous, dans les grosses émotions de notre enfant. Évidemment, j'en ai parlé en long et en large, donc je vais pas focusser l'épisode là-dessus, mais juste, je vois qu'on a un moment difficile, je vais respirer un peu ou je vais aller prendre une douche ou, tu sais, toi, en tant que parent, ben ça dépend, là, je suis pas en train de dire d'abandonner ton enfant, là, en disant « je vais aller prendre une douche », là, si ton enfant, il est calme, tu peux aller prendre une douche, mais si tu es en train d'accompagner une grosse émotion de ton enfant, de modéliser... OK, ça c'est difficile en ce moment, on a de la difficulté à rester calme, je vais prendre une grande respiration. Sinon, ça peut être de proposer notre aide à notre enfant, de lui faire un câlin s'il est réceptif, de lui offrir, de lui faire des gratouilles ou un massage peut-être. Des fois, ce que je fais ici, ça fonctionne super bien, je mets une playlist là, de musique francophone très douce, genre Alyosha ou des chansons de... Charlotte Cardin, qui sont vraiment plus smooth, ça l'apaise tout le monde, moi la première, parce que chez nous, quand il y a des stimuli dans l'environnement, s'il y a de la musique boum boum trop forte, la télé ou whatever, ça nous agresse tous, et là, les émotions, c'est un stimuli supplémentaire, fait que c'est comme à un moment donné, il y en a juste trop. Fait que c'est comme si pour apaiser, commencer à faire le travail d'apaiser nos grosses émotions et ceux de mes enfants, il faut qu'on diminue tout ou qu'on coupe le reste des stimuli sensoriels qui sont autour de nous. Fait que d'aller marcher dehors avec notre enfant, ça peut aider aussi parce qu'on vient sortir premièrement de notre cadre et ça vient vraiment être apaisant. L'enfant peut passer à autre chose, peut calmer ses grosses émotions. Ça peut être de dessiner, de lire des livres, de se coller, de regarder des photos souvenirs ensemble. Bref, de demeurer présent. Et d'accompagner les grosses émotions de ton enfant en évitant de dire « arrête, calme-toi, respire ». Deuxième erreur qu'on fait, dire à notre enfant « ben là, t'exagères, arrête de faire ta comédienne ». Oui, des fois, les enfants sont « over the top ». Totalement. C'est des vrais drama queens, mais les enfants, ils n'ont juste pas de filtre. Puis des fois, la fatigue, la faim, la surstimulation, mais ça les rend très expressifs, puis... ça explose pour rien. Ça fait des pleurs excessives pour un petit pet de travers. Mais nous aussi, on est un peu comme ça quand on y pense. C'est juste qu'on arrive à mieux se réguler la plupart du temps. Mais moi, enceinte, je me rappelle, là, je pleurais pour une publicité de Palmolive, tu sais, parce qu'il avait sauvé un petit canard d'un étang pollué. Puis si ça se trouve, je suis sûre que c'était tout stagé. Tu sais, la fatigue, le stress, les hormones, la pression, tes trop grandes charges mentales. Bien, nous aussi, ça peut nous pousser à bout puis nous faire réagir excessivement pour des mini rikiki niaiseries que si on avait eu la tête reposée ou si on avait pris le temps d'aller se coucher là-dessus puis d'éviter de réagir, probablement que le lendemain, on ferait comme « ouais ». Le nombre de fois où est-ce que j'ai écrit des courriels sur le coup de l'émotion puis que le lendemain, je me suis réveillée puis j'étais comme « bon, ça c'est le genre de choses que je peux pas undo, hein, j'en ai envoyé le courriel, là. Maintenant, assume, fille. Je suis sûre que tu me comprends, je suis sûre qu'on se comprend puis que je suis pas la seule à faire ce genre de choses. Ouais, mais c'est la même affaire pour les enfants quand... mais c'est juste eux, c'est très... vulnérables, c'est très sans filtre, c'est pour tout et pour rien, c'est normal parce qu'ils ont beaucoup moins ce contrôle-là d'eux-mêmes. Donc les enfants, ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, bien, c'est de croire, même si ça paraît farfelu pour toi, même si c'est vraiment tiré par les cheveux, ils ont besoin que tu le crois, ils ont besoin que tu le valides, sans nécessairement en faire toute une histoire, sans rendre ça gros, 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 juste faire comme... L'idée, c'est plus de voir les émotions, d'essayer de comprendre la cause, évidemment. Si mon enfant, il est over the top pour rien, y a-tu un besoin caché, y a-tu des changements dernièrement, est-ce qu'il s'est couché tard hier, on a-tu sauté la sieste, y a-tu un début de rhume, y a-tu une journée difficile à garderie... T'sais, d'essayer de trouver un peu, de jouer au détective pour essayer de trouver la cause, pour pouvoir le rassurer, mais surtout pour pouvoir répondre à ses besoins. T'sais, s'il a sauté la sieste puis est fatigué, ben peut-être qu'on va faire une petite activité calme ou si c'est propice, faire une petite sieste ensemble, coller dans le divan, tu sais. Fait voilà, dans ces moments-là, au lieu de réagir puis de prendre quasiment ça personnel, tu sais, il me prend-tu pour une valise, d'exagérer comme ça pour une petite affaire, des fois, c'est qu'on va le prendre... personnel ou ça va être agaçant, ou bon, c'est de dire à notre enfant, hey, viens ici, que je te fasse un câlin, d'essayer parfois de dédramatiser, ou juste de, viens, on va se coller dans le divan 5 minutes, qu'est-ce que t'aimerais me dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ça peut être tout simplement ça, ou juste, tu sais, faire un gros câlin, juste le réconforter, l'apaiser, sans essayer de sortir tout notre attirail de maman pieuvre là, pour répondre à, essayer au pif de répondre à tous les besoins. Des fois, les enfants, ils ont juste besoin d'un petit moment collé ensemble. Ou juste besoin d'exploser, peut-être. Troisième erreur, c'est de demander à un enfant pourquoi. Pourquoi tu frappes toujours ta sœur? Pourquoi tu exagères toujours? Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Ça va faire, comme n'importe quel humain, que l'enfant va se sentir critiqué, il va se sentir jugé, il va se sentir qu'il n'est pas dans un environnement safe pour exprimer ses émotions. Puis c'est normal, les enfants là, sont hyper impulsifs, ils ont de la difficulté à réguler leurs émotions, ils ont le sentiment d'injustice fort, surtout les enfants hypersensibles, les enfants bonsaï, là. Et les enfants, ils ont de la difficulté à se mettre à la place de l'autre. Ils ont de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'habileté affective, ils n'ont pas beaucoup d'habileté émotionnelle. Et souvent, quand ils ont une réaction forte, parce que, par exemple, ils sont fatigués ou parce qu'il est en colère, l'émotion va tellement être grosse qu'ils ne seront même pas capables de raisonner et de te répondre pourquoi il le fait. C'est des fois, il va le faire, puis il sait pas pourquoi il le fait, là. Je sais pas pourquoi. J'ai frappé ma sœur parce que j'étais en colère. Outre ça, je sais pas pourquoi, je sais pas quoi dire. Puis des fois, le fait de demander à nos enfants pourquoi, bien, à un moment donné, l'enfant va se dire comme, OK, mais il faut que je réponde, là. C'est une question, je dois donner une réponse. Mais sauf que l'enfant ne sait pas quoi répondre, fait qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va faire une tentative de réponse en fonction de ce qu'il pense que l'adulte veut entendre. Puis là, vous allez voir, dans ce temps-là, les enfants, ils répondent en marchant vraiment sur des yeux, en étant un peu hésitant, puis en nous regardant avec des points d'interrogation dans les yeux du genre « J'ai-tu dit la bonne chose? » Ça, c'est que l'enfant, il est en train de répondre quelque chose en essayant de te satisfaire. Il ne dit pas nécessairement la vérité parce que c'est ça qu'il faut. Là. C'est l'attente, là, c'est qu'il faut qu'il réponde. Mais c'est ça. En gros, en brûle pour point, sous le coup de l'émotion, l'enfant ne sera probablement même pas disposé à répondre à ta question. Donc, encore une fois, ça va mettre de l'huile sur le feu parce que l'enfant va se sentir jugé. Donc, à la place, ce qu'on peut faire, c'est dire à l'enfant, hey, t'es vraiment en colère, hein? Fait que quand tu vas être prêt, là, ben moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça t'aider à trouver une solution. Ou j'aimerais ça t'écouter quand tu vas être prêt à me parler. Fait que l'idée, c'est d'être présent, de pas se déconnecter de l'enfant. Parce qu'en disant à notre enfant, pourquoi tu fais ça? Puis en commençant à le questionner puis à le critiquer, on est en train de se déconnecter de lui. Donc à la place, on veut essayer de lui offrir de la compassion, de lui donner la chance de comprendre qu'est-ce qui l'envahit, qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça, puis à trouver une solution. Si c'est pas pour cette fois-là, tu sais, c'est d'essayer de décortiquer pour trouver une solution pour la prochaine fois. Mais en gros, de vivre un apprentissage constructif ensemble plutôt que de se foncer dedans puis jouer un peu les butt-head puis d'avoir des confrontations puis que l'enfant se sente comme s'il est dans un interrogatoire de police ou dans un procès. Ce qu'on veut, c'est en fait créer l'effet inverse et créer un sentiment, mais vraiment la connexion et un sentiment de confiance que, garde, tu peux me parler, je suis là pour te faire confiance, peu importe ce que tu vis, je vais pas te juger, je vais pas te critiquer. Et on va essayer de trouver une solution ensemble. Erreur numéro 4, c'est de, tu sais, le fameux chantage, hein? Là, si tu te calmes pas, là, t'auras pas de télé, puis tu vas aller te coucher tout de suite. Qui a pas déjà utilisé cette technique-là pour arriver à ses fins le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts et de concessions possible? Moi. Et bien d'autres parents, je le sais. Mais tu sais, on fait ça, là, on fait ça tout le temps. On fait ça probablement depuis qu'on est enfant, puis... Qu'on ait des enfants ou pas, on l'a probablement fait avec des amis, avec nos parents, avec notre chum. En tout cas, c'est sûr que si tu préfères sortir avec tes chums de gars à soir plutôt que de passer du temps avec moi, ta blonde, ben je vois vraiment c'est quoi les priorités. Hein? C'est un peu une façon de manipuler l'autre puis de le faire sentir cheap. Le problème, c'est que c'est le genre de choses qui peut tellement être évité si on savait mieux communiquer. Parce que derrière ce chantage-là, derrière cette petite manipulation là, ben il y a un message qui, lui, est valable. Il y a des besoins qui, eux, il y a quelque chose que tu aurais besoin de dire qui est valide, qui est valable, qui mérite d'être dit. C'est juste que c'est la façon que c'est transmis que ça fonctionne pas. Hein? Fait que c'est, au lieu de dire je vois bien, hein, c'est qui que t'aimes mieux, c'est de dire j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, que tu vas passer une soirée avec moi demain. J'ai besoin de savoir que tu as envie de passer du temps avec moi et qu'on peut faire des plans ensemble aussi, tu sais, cette semaine. Quand est-ce qu'on peut se voir? Donc, Évidemment, quand on fait ce genre de choses, quand on va dans le chantage comme ça, émotif, ou quand on va dans un peu le chantage de les menaces de conséquences avec notre enfant, c'est qu'il y a clairement une émotion derrière ça. Des fois, c'est juste la peur de perdre le contrôle, puis de pas savoir comment ramener ça. Fait que on va y aller avec des menaces d'une conséquence qui est souvent irrationnelle, puis qui va pas être efficace. Alors que l'enfant, il a besoin, encore une fois, de connecter, d'être entendu, d'être apaisé quand il y a des grosses émotions. Il a besoin de quelqu'un qui va pratiquer la co-régulation avec lui, qui va l'aider à réguler ces grosses émotions-là. Donc, ça va lui prendre de l'aide, pas des menaces. Donc, par exemple, ça va arriver là, souvent de dire, je suis sûre que tu as déjà dit ça, en tout cas, moi, je l'ai déjà dit. Puis, je me referais pas prendre deux fois parce que la réponse m'avait quand même scié les jambes en deux. Donc, j'avais dit à ma fille, si tu ramasses pas tes jouets, je vais les mettre à poubelle. Tu sais, puis ma fille m'a répondu, ben oui, fais-le maman. Des fois, ils vont nous surprendre avec des réponses, puis c'est là qu'on va se rendre compte de à quel point c'est incongru, tu sais, la menace qu'on a faite, tu sais, c'est comme de dire à notre enfant, si tu viens pas à la table, t'aurais pas de dessert, mais tu sais, ce qu'on veut, c'est pas que notre enfant vienne pas manger du tout. Ce qu'on veut, c'est faire peur à notre enfant, tu sais, comme là, il va avoir peur de pas manger de dessert, fait qu'il va venir à la table. Notre objectif, c'est qu'il vienne à la table, qu'il vienne manger ou qu'il vienne du moins passer un moment en famille, tu sais. C'est pas qu'il fasse comme, ok, pas de problème, j'aurais pas de dessert. Puis si l'enfant répond comme ça, ça nous satisfait pas, ça nous rend encore plus impatients. Puis là, on est comme, ah, merde, là, c'est quoi que je fais maintenant, tu sais? je suis pognée avec un autre problème. Ou tu sais, de dire, si tu viens pas brosser tes dents, c'est toi la pire, tes dents vont être jaunes puis ils vont tomber. Mais dans le fond, ce que tu veux dire à ton enfant, c'est pas ça. Tu veux que tes enfants, tu sais, c'est une consigne qui est non négociable, là. Il y a pas de question de tu te brosses-tu les dents aujourd'hui ou pas. C'est non, on se brosse les dents aujourd'hui, ce soir, et on se brosse les dents deux fois par jour. Puis là, on vient d'ouvrir la porte un peu à un choix aussi, fait que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Ben, c'est ça. Puis après, il faut pas se surprendre non plus. Moi, je dois pas me surprendre quand j'entends ma fille dire à sa sœur, cette semaine, j'entends ça, puis j'étais comme, oh, pelaye, OK, ça, c'est un petit peu confrontant comme situation. Ouais, c'est très gênant à raconter, mais je vais quand même vous le raconter. Mais ça m'a vraiment fait comme une claque en pleine face, puis j'ai réalisé que, oh, peut-être je fais plus de chantage que je le pense. Je vais faire attention à ça, je vais essayer de me watcher. Donc, bref, pour en revenir à qu'est-ce qu'elle a dit, on était dans l'auto, puis Éléonore a dit à sa sœur, si tu me prêtes pas ton micro, tu pourras plus rentrer dans ma chambre puis aller chercher des livres. Damn! Girl, je veux dire, elle a pas appris ça des voisins, OK? Fait que, bon, même si je suis pas si pire que ça, je vais vraiment faire attention. Je sais que des fois, ça glisse sur ma langue, puis je le réalise au moment où je l'entends. Je pense que tout le monde, ça fait ça un peu, hein? On est tous un petit peu impulsifs. Mais bon, on comprend que c'est pas l'idéal, puis que ce que ça fait, en fait, comme effet, pour la personne qui reçoit ça, c'est qu'on se sent à côté dans un coin de mur, puis il y a personne qui aime ça, se sentir contrôlé comme une marionnette ou un peu manipulé, et on veut pas enseigner ça à nos enfants, fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Ben, premièrement, on essaie de rattraper ça, puis de s'excuser, puis de se reprendre, mais si on est capable de l'éviter complètement, l'idéal, encore une fois, bien, c'est de connecter, puis de communiquer clairement nos besoins, nos attentes, puis d'imposer une limite claire, hein? Fait que de dire, quand tu ramasses pas tes jouets après avoir joué, ben ça traîne dans le salon, puis là, ben on perd des affaires, puis c'est pas le fun, c'est pas un bel environnement pour la famille. Tu dois ramasser tes jouets quand t'as terminé. Si c'est trop difficile pour toi de ramasser tes jouets et que je dois le faire pour toi, ben alors tu vas devoir choisir seulement deux jouets que tu aimes et qui vont être faciles à ranger, puis c'est ces deux jouets-là qu'on va garder dans le salon, puis tout le reste, ben on va le ranger dans ta garde-robe. Donc, à ce moment-là, on nomme un besoin. Moi, j'ai besoin que ma fille, mon enfant, que mon environnement soit propre et rangé et organisé. Donc, j'ai besoin que ma fille ramasse. Donc, je vais nommer mon attente. Tu dois ramasser tes jouets et je vais nommer tout de suite la limite ou slash la conséquence. Quand tu ne ramasses pas, si tu ramasses pas puis que tu n'écoutes pas cette limite-là, ben moi, je vais ranger tes jouets dans ta garde-robe puis tu vas en avoir juste deux. Comme ça, tu vas pouvoir ranger plus facilement. C'est pas nécessairement juste pour le faire vivre, c'est pas nécessairement pour lui faire vivre un moment désagréable, c'est pour l'aider finalement à vivre des réussites puis à respecter la limite. Donc l'enfant, techniquement, tout ce qu'il a à faire, c'est de ramasser. Sinon, la conséquence, ben, lui, il va pas nécessairement vivre un retrait ou quelque chose de désagréable. On va juste prendre ses jouets, les ranger, puis il va en avoir deux. L'enfant va en choisir deux. Et on s'adapte comme ça. Si jamais tu veux plus d'exemples ou plus d'informations sur mettre une limite claire, ça veut dire quoi? Je t'invite à aller écouter l'épisode 119. Et cinquième, dernier et non le moindre, la fameuse, j'ai envie de l'appeler positivité toxique, là, tu sais, genre un de perdu, 10 de retrouver. C'est quoi cette expression-là? Tu t'es fait ghoster par ton prospect. Hey, mais dis-toi que dans pas long, là, tu vas falloir que tu fasses le choix entre 10 personnes qui veulent toutes te dater. Honnêtement, là, à moins d'aller à l'amour, l'île de l'amour, là, je pense pas que personne souhaite ça. Je pense pas que tu veux souhaiter ça à personne non plus. Dater 10 personnes en même temps, ça doit être vraiment, vraiment compliqué. Moi, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Mais bon, bref, je peux pas croire que ça existe encore comme expression, là. Mais tu sais, des genres d'expressions, là, tu sais, comment ça va bien aller? Ah, oh, ça va bien aller! Moi, ça, je ne peux plus entendre cette expression-là. C'est la fameuse expression, vous allez tous vous en rappeler, évidemment, de la pandémie, hein, alors qu'on est tous littéralement enfermés chez nous avec l'interdiction de quitter son domicile après 20 heures. What the heck? Puis qu'il y a des millions de personnes qui décèdent un peu partout, tout le monde est en train de mourir, tomber comme des mouches, mais hey, ça va bien aller, guys! Si tu sors plus jamais de chez toi, en principe, tu devrais pas mourir tout de suite! Ah, oh, ouais. Fait que bref, c'est comme dire à nos enfants, mais c'est pas grave, ce que tu l'as perdu, c'est juste un toutou, tu sais. Ah, c'est rien, c'est juste une égratignure. C'est un peu une façon d'éviter les émotions, de contourner les émotions de l'enfant, de pas reconnaître, de pas essayer de comprendre que pour lui, c'est important. C'est très, très, très invalidant. Même si on veut que nos enfants soient résilients et on veut qu'ils soient optimistes, fait qu'on essaye hein, de les raisonner, de leur faire comprendre « Ah mais non, mais il faut rester positif. » Mais pour les enfants qui, eux, n'ont pas accès du tout à cette partie du cerveau-là, quand ils sont dans leurs grosses émotions, c'est totalement contre-productif. Quand nos enfants sont pris avec des grosses émotions, ben ils n'ont pas la possibilité de raisonner, ils n'ont pas accès à cette partie-là du cerveau, ils peuvent pas réfléchir. Ça peut pas pour eux, on peut pas leur demander d'être raisonnable ou mature dans leur réaction. Parce que son cerveau ne l'est pas mature. Donc, l'invalidité émotionnelle ou le fait de ne pas être compris, d'être jugé, c'est extrêmement insécurisant parce que l'enfant, il se dit « Ok, ben c'est pas normal. Je suis pas normale de me sentir comme ça. Je devrais pas supposer me sentir comme ça. Je devrais être content. Je devrais pas avoir de la peine. Fait que pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens en colère? » Donc, ça peut vraiment briser quand même le lien de confiance parce que l'enfant se sent incompris et c'est très insécurisant de voir que l'autre personne en avant nous ne nous comprend pas, particulièrement quand c'est notre parent ou un adulte de confiance. Surtout quand on a quelque chose d'important, qu'on vit quelque chose d'important, même si c'est tout petit pour les enfants, mais qu'ils ne se sentent pas entendus. Donc, écouter, valider, accueillir les sentiments, c'est exactement la mission de mon dernier livre, « Petits humains, grosses émotions ». Je ne sais pas si tu as vu, ça a enflammé les réseaux sociaux. Fait que tu en as peut-être entendu parler, mais c'est vraiment un livre que j'ai écrit avec une maison d'édition, les éditions de l'Homme. Un livre pour aider les parents à se déresponsabiliser des émotions de nos enfants, d'arrêter de prendre les émotions de nos enfants sur nos épaules, d'arrêter d'avoir comme mission de sauver nos enfants, de les protéger de leur malheur, de leur peine, de leur douleur, d'arrêter de vouloir leur éviter le pire, d'arrêter de vouloir éviter là, qu'il aille mal à tout prix, parce qu'en faisant ça, on est en train de complètement passer à côté d'une chose qui est crucial pour leur développement, et c'est d'apprendre à naviguer dans leurs grosses émotions, d'apprendre à trouver des solutions par soi-même, d'apprendre à demander de l'aide, puis à accepter quand quelqu'un nous offre de l'aide aussi, d'apprendre à communiquer ses besoins clairement, d'apprendre à déterminer, puis à communiquer ses limites, d'apprendre à son cerveau à gérer des petites situations de stress avec un peu plus d'aise pour, après ça, apprendre à gérer efficacement les situations qui sont stressantes pour prévenir justement des troubles d'anxiété ou des difficultés de santé mentale plus tard. Puis je le sais, que tu le sais, à quel point c'est difficile à travailler ces choses-là une fois adulte. Je sais que tu le sais que c'est vraiment pas l'idéal d'avoir de la difficulté à mettre ses limites avec les autres, à dire non, à communiquer des inconforts, à communiquer ses besoins sans être impatient sans se sentir mal, que c'est difficile des fois de se relever devant une défaite, de vivre des échecs, de demeurer justement confiant et optimiste ou de demeurer grounded quand il y a une situation qui nous échappe et qui est hors de notre contrôle. Oui, tu peux éviter les malheurs à tes enfants. C'est totalement possible, puis c'est une super belle mission, en fait. Oui, tu veux que tes enfants soient épanouis, tu veux qu'ils manquent de rien, tu veux qu'ils soient heureux, mais je sais que tu veux qu'ils aient plus de facilité que toi, adulte. Je sais que tu veux les outiller, je sais que tu veux continuer à grandir toi aussi, évidemment, puis à leur offrir le bon modèle. Et moi, je cherchais un livre comme ça. Je cherchais un livre qui allait accompagner les parents comme ça. Un livre où les parents allaient se reconnaître dans les différents exemples. Un livre où les parents pourraient souffler, se sentir enfin compris, se déculpabiliser, mais qui allait aussi se sentir pris par la main. Chercher un livre qui ferait sourire malgré les difficultés, malgré les bas qui font mal des fois, malgré le sentiment des fois d'être vraiment en perte d'équilibre puis de pas savoir pantoute où on s'en va. Je voulais un livre qui puisse faire des réactions de « Ah! Oh, enfin! Je comprends mon enfant! Je sais quoi faire! » Mais là, je me suis dit, la meilleure façon de trouver ce livre-là, c'est de l'écrire. Fait que je l'ai écrit. J'ai écrit un livre. Puis maintenant, ben, je peux t'annoncer avec beaucoup de fierté que mon livre, ben, c'est un livre coup de cœur de chez Renaud Bré. Il fait les palmarès de vente un peu partout, que des milliers de parents l'ont déjà acheté, l'ont lu et que j'espère vraiment sincèrement que cet outil précieux-là, que ce livre que va pouvoir inspirer plein d'autres familles, va pouvoir transformer leur aventure parentale, ton aventure parentale, en une aventure plus douce, plus simple. Je suis pas en train de dire que ça va nécessairement être magique ou plus facile, mais c'est beaucoup plus encourageant d'avancer quand on se sent moins seul et quand on se sent accompagné entre bonnes mains avec plusieurs solutions à notre portée en fonction de nos besoins et en fonction de ce qu'on vit individuellement comme famille. Donc voilà, mon livre Petits humains, grosses émotions est disponible partout en librairie. Il est aussi disponible sur ma plateforme, sur ma boutique Wikid au shop /wikid.ca. Et puisque je veux être transparente et honnête avec vous, et parce que aussi plusieurs questions m'ont quand même posé la question en privé dans mes messages, donc je vais le mentionner ici. Oui, si vous achetez via ma plateforme, ma boutique Wikid, évidemment, il y a plus de sous qui vont dans mes poches par achat de livres que si vous achetez dans une librairie, parce que dans la librairie, on est plusieurs. Il y a le libraire, il y a moi, il y a aussi ma maison d'édition, donc on se sépare les coûts, ce qui fait que ça me revient à peu près à 2$, un petit peu moins que 3$ par livre versus sur ma boutique en ligne où là, je vais aller toucher à peu près 50% de la valeur du livre. Bon, moins mon temps et les frais, mais bref, tout ça pour dire que achetez-le où est-ce que vous voulez. Je me suis fait poser la question, alors je réponds à la question, mais sincèrement, là, je vous l'invite à l'acheter à l'endroit qui vous convient le plus. Allez l'acheter en librairie ou achetez-le sur ma plateforme, peu importe, mais achetez-le parce que je sais que c'est un outil qui va vraiment être aidant et qui va porter des résultats vraiment positifs dans votre dynamique familiale. Puis écrivez-moi vos commentaires, écrivez-moi vos feedbacks ou allez mettre un review quand vous aurez terminé le livre ou si vous l'avez bien entamé, là, ça me ferait tellement plaisir. Ça peut être sur les libraires où il y a une place pour acheter des commentaires ou sur ma boutique en ligne. Ce serait vraiment le plus beau des remerciements. Hey, merci d'avoir été encore une fois à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait capoter à chaque fois. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Tourlou!